Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La journaliste bulgare Victoria Marinova a-t-elle été tuée pour avoir voulu dévoiler les malversations et la corruption liées aux subventions européennes dans son pays? Pour l'instant, l'enquête se focalise officiellement sur le principal suspect, un jeune homme de 20 ans, coupable également de l'avoir violé et qui devrait être extradé d'Allemagne dans les prochains jours. Victoria Marinova était une des rares journalistes à oser parler ouvertement des entreprises impliquées dans le scandale JP Gate, du nom d'une grande entreprise de travaux publics. Juste avant sa mort, elle avait invité dans son émission deux enquêteurs du site d'information bivol.bg. Asofia, notre correspondant, est allée rencontrer l'un d'eux, le journaliste Dimitar Stoyanov. Ses révélations sur le groupe JP avaient été publiées il y a quelques semaines.
L'affaire a éclaté au grand jour début septembre. Des millions d'euros provenant de fonds européens, une nébuleuse d'entreprises qui verse des pots de vin, des hauts fonctionnaires corrompus. C'est l'affaire JP Gate, dévoilée par le site spécialisé dans le journalisme d'enquête bivol.bg. Créé en 2010, le site est un des rares médias indépendants en Bulgarie. Son indépendance est avant tout financière. L'équipe ne compte que sur les dons de ses lecteurs pour survivre. Ce qui ne veut pas dire que les journalistes ne subissent pas de pression. Bien au contraire, témoigne le reporter Dimitar Stoyanov.
Notre équipe dévoile des détournements de fonds européens depuis sa création. Malheureusement, la mafia s'est enrichie grâce aux fonds européens. Il y a des pressions permanentes. On nous suit, on nous menace, on nous agresse dans la rue. Ça fait partie de notre vie. J'ai même passé un an au Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, à Leipzig. C'était trop dangereux pour moi de rester en Bulgarie.
Dans l'affaire JP Gate, Dimitar Stoyanov a obtenu des documents qui prouvent des détournements de fonds par l'entreprise de construction JP Group, qui a obtenu des contrats pour des marchés publics évalués à des millions d'euros.
Dans l'affaire JP Gate, 5 sociétés ont réussi à monopoliser des contrats financés par l'Europe. Nous avons reçu des documents qui prouvent qu'il y a une double comptabilité. La valeur de chaque projet y est notée, de même que les pots de vin destinés aux hauts fonctionnaires ou aux autorités locales.
Au cours de leur enquête, Dimitar Stoyanov et son confrère Attila Biro sont arrêtés par la police alors qu'ils tentent d'empêcher la destruction de documents par des entreprises impliquées dans l'affaire. Le doute persiste sur les raisons de l'arrestation. L'entreprise au centre de l'affaire, JP Group, a signé plusieurs contrats publics. Elle est chargée entre autres de la rénovation du centre de Sofia. Mais les travaux, en retard de plusieurs mois, laissent à désirer. Ce qui a provoqué une vague de mécontentement. La direction de l'entreprise n'a pas souhaité nous rencontrer pour un entretien, mais s'est contentée de renvoyer une lettre publiée sur son site début septembre. Elle nie toute implication dans des affaires de corruption.
Ce n'est pas la première fois que JP Group est la cible de calomnies à travers des propos manipulateurs et de fausses insinuations. L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour sa défense. Elle demande par ailleurs que les organes compétents vérifient les soi-disant preuves apportées par le site bivol.bg afin de dévoiler les véritables motivations de ces pseudo-enquêtes journalistiques.
Juste avant d'être tuée, Victoria Marinova avait décidé de revenir sur l'affaire JP Gate. Dans son émission, elle avait invité les journalistes de Bivol et elle promettait davantage d'enquêtes.
Notre équipe s'engage à donner la parole aux journalistes d'investigation et promet de mener ses propres enquêtes dans l'intérêt général. La mission de ce programme est de dénoncer les mensonges et connaître la vérité. C'était tout pour aujourd'hui avec moi, Victoria Marinova.
Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Anom a été arrêté pour le viol et le meurtre de Marinova. La version officielle est qu'il n'y a pas de lien avec le travail de la journaliste. Le parquet s'est pourtant mobilisé après le meurtre. Un virement de plusieurs millions d'euros vers JP Group a été saisi. Une enquête est en cours.
Et on retrouve à Sofia notre correspondant Damien Vodenitcharov. Bonjour Damien.
Bonjour.
On va parler des derniers développements dans cette affaire. Plusieurs politiques sont intervenus. L'exécutif aussi s'est exprimé. Damien, où en est l'enquête sur JP Group ?
L'enquête est toujours en cours. Le procureur général, Sotir Tsatsarov, a apporté quelques éclaircissements. Un collaborateur de l'entreprise serait impliqué dans le blanchiment d'argent. Il a été mis en examen et pour l'instant, aucune version pour le meurtre de Victoria Marinova n'est encore écartée.
Et on imagine que l'entreprise JP a également réagi.
Oui, le directeur général de JP Group, Vladimir Jitinsky, est apparu pour la première fois devant les médias et d'après lui, l'entreprise serait diabolisée pour l'écarter des marchés publics. L'entreprise elle-même semble ici avoir cédé sous la pression puisqu'elle a abandonné des chantiers évalués à des dizaines de millions d'euros à Sofia et ailleurs. Cela dit, certains de ces chantiers pourraient être repris par des entreprises qui ont les mêmes actionnaires que JP Group.
Et est-ce que ce groupe est lié à des politiques ?
Officiellement, non. Mais en Bulgarie, les propriétaires réels des entreprises restent souvent dissimulés grâce à des tours de passe-passe juridiques. JP Group est connu comme le constructeur de Lukoil Bulgarie. C'est la filiale du géant russe du pétrole, dirigée ici par Valentin Zlatev. C'est une des personnes les plus influentes dans le pays. Et dans les médias, on s'interroge aussi sur les liens entre le groupe JP et le mania des médias d'Elian Peevski. Il contrôle plus de la moitié de la presse écrite bulgare, mais ce ne serait encore une fois que des liens indirects.
Merci Damien Vodenicharov à Sofia. Et on le voit dans cet épisode bulgare, l'information manipulée par des intérêts économiques ou politiques est un véritable enjeu de pouvoir. Plusieurs pays comme le Royaume-Uni ou la France se sont dotés de législations contre les fausses informations. En Grèce, une loi est censée lutter contre les rumeurs, mais elle date des années 50 et elle ne permet pas de lutter efficacement contre les fake news sur la toile. À Athènes, Charlotte Stivenard.
En Grèce, une personne qui publie de fausses informations peut être condamnée, en théorie, à 1 an de prison ou à une amende. Mais attention, pour qu'il y ait condamnation, il faut prouver que la dite information a trouvé un écho auprès du public, qu'elle a suscité la peur et nuit en conséquence à l'économie, au tourisme, à la défense ou aux relations extérieures du pays. Le professeur de droit pénal Christos Milonopoulos rappelle que cette loi date des années 50. À cette époque, la Grèce venait de sortir d'une guerre civile sanglante et cherchait à retrouver un peu de stabilité. Pendant des décennies, ce texte a peu servi. Le voilà revenu au goût du jour avec le développement de l'information à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Le maire de Lesbos a par exemple récemment porté plainte pour diffusion de fausses informations sur Internet à propos des migrants. Des rumeurs anxiogènes comme celles disant qu'ils avaient cherché à empêcher la levée du drapeau grec sur la place de Mytilène. Rumeurs démenties par les autorités en charge de la levée du drapeau. Mais une condamnation semble peu probable. Selon la presse grecque, la première a eu lieu en 2016 seulement pour un journaliste qui avait publié un article affirmant que les vaccins provoquent le cancer. Pour Christos Milonopoulos, difficile d'appliquer cet article du code pénal grec car il serait, selon lui, trop imprécis. Il ne définit pas ce qu'est une fausse information. Les rumeurs, par exemple, entrent-elles dans cette catégorie ? Ou sinon, comment prouver que l'auteur était conscient que l'information était fausse ? De plus, ce texte est, selon lui, difficilement compatible avec la liberté d'expression inscrite, elle, dans la Constitution. Un reproche qui s'adresse aussi à la loi qui vient d'être votée en France.
Les nouveaux populismes de droite ont fait leur entrée par la grande porte à l'occasion des dernières élections générales dans plusieurs pays d'Europe, l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne ou l'Autriche. C'est dans ce contexte que l'extrême droite autrichienne rendait hommage la semaine dernière à Jörg Haider, décédé il y a 10 ans dans un accident de voiture. Pour en parler, on retrouve Isorias à Vienne. Dans une cérémonie, le parti FPE, le parti de la liberté, a redit tout ce qu'il doit à ce pionnier du populisme.
Oui, et parmi les invités, Heinz Christian Strache, le chef du FPE, également vice-chancelier, une présence logique tant ce parti d'extrême droite doit à Jörg Haider. Lorsque ce dernier prend la tête du FPE en 1986, c'est en effet un parti qui fait moins de 10% des voix aux élections. Haider le transforme profondément et en fait un parti anti-immigration. Au fil des décennies, le FPE version Haider s'impose et gagne des voix jusqu'à ce coup de tonnerre lors des élections législatives de 1999. Cette année-là, le FPE arrive en deuxième position avec près de 27% des voix, ce qui conduit le parti au gouvernement de 2000 à 2006, une entrée qui sera sanctionnée par l'Union européenne. Une décennie plus tard, pas de sanctions. Pourtant, le FPE est de nouveau au pouvoir dans une coalition avec les conservateurs. Et selon les analystes, c'est aussi grâce à Haider, car c'est lui qui a fait du FPE l'une des trois principales forces politiques en Autriche.
Et aujourd'hui encore, l'influence d'Haider est perceptible dans le débat public et politique, Isor.
Oui, une influence néfaste aux yeux de ses détracteurs. Selon eux, la rhétorique anti-migrant d'Haider s'est peu à peu imposée jusqu'à être normalisée aujourd'hui. Les formules choc et le style direct d'Haider se retrouvent d'ailleurs chez certains responsables politiques du FPE, notamment Herbert Kickl, l'actuel ministre de l'Intérieur qui fut la plume d'Haider durant plusieurs années. Mais l'influence du tribun autrichien s'étend au-delà du FPE, explique la politologue Birgit Sauer, car Haider a également introduit un nouveau style en politique avec une communication plus moderne, dynamique et un sens aigu de la mise en scène. Autant d'éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans le paysage politique autrichien.
Mais 10 ans après sa mort, on peut dire que la figure de Jörg Haider reste encore très controversée en Autriche.
Oui, notamment en raison des nombreux scandales qui ont émaillé la carrière d'Haider. Fils d'un cordonnier qui fut un nazi de la première heure, Haider a notamment fait l'apologie de la politique de l'emploi du Troisième Reich et a loué le sens de l'honneur des vétérans de la Waffen-SS. C'est pourquoi, 10 ans après sa mort, Haider compte de nombreux fidèles, mais aussi beaucoup de détracteurs. Et ces derniers regrettent qu'une partie des Autrichiens ait oublié un peu vite toutes ces provocations, en particulier en Carinthie, où Haider reste assez populaire, bien qu'il ait lourdement endetté ce land qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans. Un sondage montrait ainsi en mars dernier que 36% des Carinthiens étaient prêts à voter de nouveau pour Jörg Haider.
Merci Isoria Savienne.
Comment tu t'appelles, hein ? Je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles, hein ?
Changer de nom, plus de 100 000 Turcs en ont fait la demande depuis que le gouvernement a annoncé une procédure allégée sans passer par la justice. Pour certains patronymes embarrassants, on peut dire qu'il y avait urgence à Istanbul, à Nandlaouar.
Monsieur le vendu, madame sans culotte. Monsieur stupide, madame testicule. En Turquie, certains noms de famille sont plus lourds à porter que d'autres. Et le plus étrange dans l'histoire, c'est que ces patronymes pour le moins incongrus, les Turcs concernés les doivent à des ancêtres pas si lointains que ça. En 1934, la jeune République de Turquie demande à ses citoyens de se choisir un nom de famille. La plupart pensent à leur métier et deviennent Monsieur Berger, Dinandier, Orfèvre. Beaucoup d'autres, en toute modestie, s'attachent à un trait de caractère ou à une origine ethnique. Monsieur le vrai Turc, le héros, Monsieur à la grande moustache. D'autres, enfin, sont plus poétiques en demandant à s'appeler Nuage, Fleur ou Orage. Le président Recep Tayyip Erdogan, dont le nom de famille est l'un des plus portés de Turquie, peut se vanter d'un patronyme signifiant mot à mot « le soldané ». Son lointain prédécesseur, Mustafa Kemal, fondateur de la République, s'est vu offrir par le Parlement le noble nom d'Atatürk, c'est-à-dire « père des Turcs ». Au passage, la loi de 1934 interdit aux membres de minorités religieuses et ethniques, kurdes, arméniens, juifs, etc., de porter un nom aux consonances étrangères. Et c'est ainsi que dans cette grande foire aux patronymes, certains ont fait preuve d'une extrême originalité et ont choisi de s'appeler Monsieur Nu, Monsieur Fou, Monsieur Chacal ou Monsieur Canard. Pendant longtemps, leurs descendants désemparés face à un tel héritage ont eu toutes les peines du monde à faire changer leur patronyme. Il fallait en passer par une décision de justice très difficile et coûteuse à obtenir. Mais depuis janvier 2018 et jusqu'à novembre 2019, le gouvernement simplifie les démarches et autorise le changement sur décision administrative. Au cours des derniers mois, plus de 75 000 personnes ont ainsi requis un nouveau patronyme. Notons que la nouvelle loi permet également de changer beaucoup plus facilement de prénom. Plus de 30 000 Turcs en ont fait la demande à ce jour.
C'est une maison de retraite pas comme les autres qui va ouvrir prochainement ses portes à Madrid, une capitale gouvernée par une maire alternative de gauche. Ses pensionnaires seront tous des personnes âgées homosexuelles, une communauté qui vit dans l'exclusion et qui est soutenue par la Fondation 26 décembre. C'est là que Diane Cambon est allée à leur rencontre.
Des meubles d'époque en bois, des portraits jaunis, des tableaux de nus décorent cet espace atypique où chaque jour, gays, lesbiennes et travestis se retrouvent quelques heures pour discuter, boire un café ou participer à un atelier créatif. Tous ont plus de 50 ans et recherchent la même chose, ne plus être seuls. Ricardo, un peintre âgé de 67 ans, est un fidèle de l'association.
Je viens tous les jours parce que je me sens mieux ici que dans l'appartement où j'habite. Là, c'est un espace de liberté pour les gens. Je vais m'intégrer parce que j'ai dit, je dois partager ce que je connais, ou si je peux aider les autres gens. parce que sinon ma vie n'a pas de but.
La discrimination touche particulièrement les personnes âgées de la communauté LGTB. Elles font partie d'une génération élevée sous le franquisme qui n'a pas pu exprimer librement son homosexualité et s'autocensure en s'excluant de la vie sociale, comme l'explique Bélène, éducatrice de l'association.
La société accepte plus facilement le monde des gays lorsqu'ils sont jeunes et pas celui des gays plus vieux. Les homosexuels d'un certain âge ne se sentent plus attirants. Ils se sentent en dehors du marché et de même, ils s'éclipsent de la collectivité. Les lesbiennes âgées, on ne les voit jamais dans les espaces publics. Quant aux travestis âgés, ils sont presque tous morts.
Pour Federico Armenteros, le président de l'association, il était donc urgent de créer une structure publique spécialisée et accessible aux personnes âgées avec peu de ressources. Car la majorité des homosexuels ou lesbiennes n'ont pas les moyens de s'offrir une résidence privée pour finir leurs vieux jours.
On nous a vendu l'image du gay plein aux as parce qu'on ne se mariait pas, du gay cachant l'argent sous le matelas. C'était la façon de nous accepter socialement. Mais en réalité, ceux qui viennent dans notre fondation n'ont pas de moyens. Ils sont au chômage, avec le salaire minimum, ou bien ils vivent avec la pension de retraite de base, 426 euros mensuels. Certains frôlent même l'exclusion sociale.
Avec 62 places, dont une dizaine pour les malades en soins palliatifs, la future maison de retraite Arc-en-Ciel sera financée par les institutions publiques, mais elle disposera d'un personnel médical trié sur le volet, car il doit être formé à la diversité. Les patients appartiennent tous à la communauté LGTB, un refuge pour retraités gays que défend Federico.
On ne veut pas aller dans une maison de retraite pour hétéros, parce que cette génération-là n'a pas été sensibilisée. On nous a insultés, marginalisés toute notre vie. On n'a pas envie de retourner dans le placard. Nombre d'entre nous préfèrent se suicider que de revivre ça lorsqu'ils seront dépendants. Ils ont des piqûres d'insuline toutes prêtes.
Offrir un cadre de vie agréable pour les plus démunis, sans commentaires homophobes, c'est ce que veut Federico, âgé lui-même de 60 ans.
C'est un endroit où les homos vont se sentir protégés, où ils ne seront pas jugés et où personne ne leur demandera leur orientation sexuelle, car elle sera connue de tous.
L'ouverture de cette maison de retraite, prévue en début d'année prochaine, a suscité un engouement. Des centaines de personnes sont actuellement sur la liste d'attente. Elles viennent de toute l'Espagne, mais aussi d'Europe et d'Amérique latine.
Après 5 ans de fermeture, le musée national de Stockholm a réouvert ses portes. Une petite pierre dans le grand édifice de l'identité nationale. Frédéric Faux l'a visité pour nous.
Un nombre d'œuvres exposées multiplié par 5. Des salles peintes de couleurs vives et réorganisées de façon chronologique. Après 5 ans de travaux, ce retour était attendu du public. Le musée national, comme dans d'autres pays en Europe, est en effet au cœur de la culture suédoise. C'est là que sont conservés des chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIe siècle aux années 1900, comme un célèbre autoportrait de Rubens, mais aussi les scènes de campagne d'Anders Zorn, considéré comme le plus grand peintre du pays. Susanna Petersson est la toute nouvelle directrice du musée.
Nous montrons ces peintures iconiques, ces chefs-d'œuvre que tout le monde connaît en Suède. C'est comme un livre d'images qui parle directement à votre cœur. Et les réactions après la destruction cet été du musée national de Rio au Brésil nous ont bien rappelé pourquoi ces lieux de mémoire comme nos musées sont si importants pour notre pays. Car ils sont liés à notre identité, ils sont liés à la mémoire des nations.
C'est la première fois en 150 ans que le musée national de Stockholm fait l'objet d'une rénovation. Il peut maintenant montrer au public plus de 5000 œuvres. Des tableaux, mais pas seulement. Ces toiles sont en effet accompagnées de meubles, de bijoux ou d'objets décoratifs de la même époque afin de les resituer dans leur contexte.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslo. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe. On se retrouve dès demain.